19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Tous les archéologues en conviennent, la fouille à la périphérie de Narbonne est une exception. Exception par le nombre des tombes romaines à fouiller, plus d'un millier, par le lieu même Narbonne, première ville romaine implantée en 118 avant notre ère, capitale de la province de la Narbonnaise. Un chantier hors norme donc, qui devrait bouleverser nos connaissances sur les pratiques rituelles de l'Antiquité. Entre archéologie de terrain et de salon, tout le monde veut percevoir cette étonnante trouvaille. Un unicum, diraient les archéologues. Hormis un petit lot de journalistes et les 30 archéologues sur le terrain, se pressaient autour des tombes fraîchement ouvertes les édiles de la région Occitanie, du département de l'Aude, de l'agglomération du Grand Narbonne, de la ville du même nom, sans oublier préfecture et DRAC Occitanie. Entre France Inter et sa concurrente privée, Nagra en bandoulière, j'ai réussi à tendre mon micro pour capter quelques mots de la responsable de cette vaste opération archéologique, Valérie Bell.
Et vous avez devant vous aussi des exemplaires des plaques funéraires en marbre, qui en fait sont des objets qui étaient destinés à être apposés sur les monuments ou sur les murs des enclos pour valoriser la mémoire du défunt, préciser à qui appartenait la concession, donc l'enclos funéraire, préciser son statut, qui étaient les ayants droit de la concession. Nous avons deux exemples, donc au dieu-man à Festus, âgé de 10 ans, et à Aquila, âgé de 8 ans, Julia Protogenia à ses chéris. Donc c'est une épitaphe qui est destinée à des enfants. Et puis une plaque que nous avons récemment découverte, qui était en remploi dans une tombe, et qui là mentionne un sévir. Le Sévira, c'est une magistrature qui est réservée aux affranchis et qui est consacrée au culte de l'empereur. Donc voilà, donc des plaques en marbre, donc de qualité, qui montrent qu'on a une population qui est essentiellement de statut inférieur, donc des esclaves, des affranchis, mais quand même qui avait une relative prospérité.
Loin du brouhaha du chantier, mais surtout de la puissante tramontane, c'est dans une cabane de chantier que j'ai retrouvé Michel Vaginet, archéologue et désormais directeur adjoint des affaires culturelles de la région Languedoc-Roussillon, puis Jérôme Hernandez, archéologue spécialiste des pratiques funéraires à l'INRAP. Michel Vaginet, nous sommes Narbonne. Narbonne, première ville romaine de France?
Bien sûr, première ville romaine de la Gaule, avant d'être la France, hein, évidemment, avec création de la capitale de la Gaule transalpine au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui devient capitale de la Gaule narbonnaise. Donc c'est pas rien, Narbonne, pour l'histoire romaine et pour l'histoire de notre actuel territoire, une nation française.
Le tout vers les années moins, on va dire, 118 avant notre ère?
Absolument, la fondation politique, effectivement, c'est à ce moment-là, fin 2e siècle, donc 118, 120 avant notre ère, absolument, oui.
Alors la ville, elle se trouve environ à 600 mètres d'où nous sommes. Là, nous sommes bien sûr extramuros, puisque par principe, on n'enterre jamais les morts dans la ville.
Absolument, nous sommes en périphérie de la ville, mais pas n'importe où, puisque nous sommes quasiment à mi-chemin entre le port de Narbonne, le port antique, et la ville elle-même, le long d'une grande voie qui allait du port à la ville.
Quelle est la chronologie? On est dans ces années avant notre ère ou après notre ère?
Alors, j'ai cru comprendre dans les dernières découvertes que les premières tombes, les tombes les plus anciennes, seraient de la fin de la proto-histoire, donc à un moment où on est en train de basculer de la civilisation celtique à la civilisation romaine, au moment sans doute pas très loin de la période de la fondation. J'ai pas de datation très précise, mais il est probable qu'on soit dans ces eaux-là. Alors, est-ce que ce sont des tombes romaines, des tombes gauloises? Ça, c'est les études qui permettront de le dire. Et ensuite, l'essentiel de la nécropole, ça va se développer à partir de du moment où la ville explose véritablement, qui est à l'époque augustéenne, et puis ensuite, 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, pour la fonction nécropole, mais il y a d'autres occupations ultérieures qui ne sont plus d'ordre funéraire, mais d'habitat ou de périphérie d'habitat.
Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est le nombre de tombes qu'il pourrait y avoir. Je dis bien qu'il pourrait y avoir.
Oui, nous sommes dans une estimation de sans doute d'un millier de tombes. Alors c'est extraordinaire parce qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender des nécropoles urbaines sur des superficies pareilles. Là, on est sur 2500 mètres, 3000 mètres carrés. Donc on a la chance d'appréhender d'un seul tenant une très grande superficie. Mais ramener à un siècle demie d'occupation pour une ville de la taille de Narbonne, c'est pas forcément aberrant de considérer qu'il y a plusieurs milliers de tombes dans un cimetière comme ça, sachant que nous ne fouillons actuellement qu'une petite partie de ce cimetière, qui était sans doute étalée sur près d'un hectare, voire plus d'un hectare.
Qui sont dans ces tombes ?
Ça, je pense que ce sont les études postérieures à la fouille qui le permettront. Et avec une chance particulière, c'est que là, précisément, nous avons beaucoup d'inscriptions. Donc, je pense que ces inscriptions permettront de dire qui était là, le nom de la personne. Quand on connaît le nom, ça permet d'en connaître l'origine. Est-ce que c'est un trianomina, donc un citoyen romain ? Est-ce que c'est un esclave ? Est-ce que c'est un gaulois ? Donc, je pense que déjà, toute l'onomastique permettra de définir un certain nombre de choses. Et puis, la nature des objets présents dans les tombes, est-ce que ce sont des importations qui viennent de telle ou telle région, peuvent permettre de donner des indications sur l'origine ethnique, sociale de ces populations.
Narbonne, c'est le grand centre urbain en Méditerranée, du moins en Gaule.
Pour moi, il y a deux grands centres. Je dirais il y a Marseille et il y a Narbonne. Marseille qui irrigue économiquement toute la vallée du Rhône et toute la partie orientale du territoire gaulois, entre guillemets. Et puis Narbonne qui irrigue le fameusisme gaulois cher à Strabon, qui irrigue et qui permet de faire remonter tous les produits méditerranéens, à commencer par les amphores, tout le long de cet isthme gaulois, Seuil de Neurouze, Toulouse, Bordeaux et ensuite la Bretagne insulaire.
Michel Vaginay, cette nécropole, ou du moins la fouille de cette nécropole, c'est une occasion unique pour les archéologues ?
À l'évidence, c'est une occasion unique à ce jour, parce qu'il est très rare, dans l'ensemble de l'Empire, d'avoir pu découvrir des nécropoles dans cet état de conservation. Le comité scientifique que nous avions réuni pour nous aider à calibrer cette fouille et en valider l'importance, avec des gens comme Jean-Pierre Brun ou John Child, professeur au Collège de France, William Van Andria ou d'autres grands noms de l'archéologie funéraire nationale, nous ont très clairement dit qu'ils ne connaissaient pas d'équivalent à l'échelle du monde romain aujourd'hui. Et l'un d'entre eux, dans une des réunions, a laissé entendre qu'on ne fouillerait plus de nécropole à l'échelle de l'Empire romain de la même manière une fois qu'on aurait fouillé, étudié et publié la nécropole de la Robine. Ça sera un site de référence, très clairement, oui.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Jérôme Hernandez, j'ai cru comprendre que vous aviez 1000 tombes, voire même encore plus. Ça se fouille comment, ce genre de tombes ?
Eh bien, avec délicatesse, mais relativement vite, puisque le temps, c'est de l'archéologie préventive, le temps est contraint. Et donc, il faut trouver la juste vitesse entre le temps de fouille qui permet de préserver les aspects scientifiques et en même temps de respecter les délais en temps qui nous sont accordés par l'État.
Alors, vous en avez plein de tombes. Les plus belles, elles sont maçonnées, c'est les vrais petits monuments.
Ah, c'est pas forcément les plus belles, c'est parmi les plus intéressantes, mais elles sont toutes, pas forcément belles, mais elles sont toutes vraiment représentatives de la diversité des pratiques funéraires à l'époque romaine, avec des tombes très simples, c'est vrai, qui consistent simplement en une fosse avec un vase ossuaire et quelques dépôts, et puis des tombes un peu plus monumentales qui sont, elles, entourées d'un édicule qui se place à l'intérieur d'un enclos et qui sont surmontés de plaques et de stèles épigraphiées et qui se font effectivement le reflet, alors non peut-être pas de la beauté, mais en tout cas d'une classe sociale un petit peu plus aisée ou bien d'une personne un peu plus mis en avant au sein de l'ensemble funéraire.
Alors moi, ce que j'ai vu, ce sont des sortes de petits bâtiments quadrangulaires, on va dire maçonnés, avec 2-3 tuiles et on imagine que l'individu est dedans.
C'est ça. En fait, on a deux types de petits monuments. Alors, on présente toujours la même forme, un petit édicule quadrangulaire qui est réalisé à partir de pierres maçonnées simplement à partir d'un mortier de chaux. Et à l'intérieur, il y a effectivement un petit coffre de tuiles, des tégulas très simples, et qui vont accueillir le vase ossuaire, les dépôts. Et c'est par-dessus ce vase que sera mis en place le conduit à libation qui émergera du sol de fonctionnement de l'enclos, là où les Romains viendront pratiquer les rites, procéder aux rites de l'ancêtre. Et puis après, on a une deuxième forme d'édification et qui est celle d'une monumentalisation autour d'une tombe qu'on pense particulière, tombe qui au départ est beaucoup plus simple, et puis on voit que dans le temps, au fur et à mesure que l'enclos se structure, évolue, il y a une tombe particulière qui va être choisie, qui va être monumentalisée, elle aussi à l'aide, au moyen d'un petit édicule quadrangulaire, et qui va là aussi, à une période, la mettre plus en avant que les autres. Et on pense que c'est une pratique familiale ou sociale qui est destinée à mettre un ancêtre en avant.
Vous avez même de la sculpture.
Alors, un petit peu de sculpture. Alors là, ça, c'est les choses qui nous échappent, puisque c'était des éléments décoratifs qui étaient disposés au-dessus de la tombe. Et c'est vrai que si les tombes sont bien conservées, là, par contre, tout ce qui est de l'ordre de la sculpture, etc., ça a disparu. Alors, on sait qu'il y en avait, qu'il y avait des éléments décoratifs, des registres sculptés, historiés, etc., parce qu'on en retrouve les reliefs, les petits bouts qu'il en reste sur le sol ou sur les phases de démantèlement et de destruction.
Alors j'ai vu des petits monuments quadrangulaires et puis des vases tout autour. Ce sont aussi des tombes qui viennent s'agréger donc autour de ce petit monument ?
Ah là c'est toute la question puisque en fait on a notamment une tombe de ce type qui est relativement grande pour le secteur et qui vient avec un enclos quadrangulaire qui vient se mettre au contact d'un petit chemin qui permettait de circuler à l'intérieur de l'ensemble funéraire et en façade. Devant le petit édicule quadrangulaire, on a effectivement toute une série de vases qu'on n'a pas fouillés, hein, qu'on a laissés pour l'instant en place. On n'a pas cherché à voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et on a plusieurs hypothèses. Alors soit ce sont des défunts appartenant à la même famille qu'on est venu placer dans l'enclos, hein, entre le chemin et la tombe centrale. Soit ce sont des éléments, pourquoi pas avec un but là aussi décoratif pour végétaliser la tombe, etc. Et là, il faudra attendre la phase de laboratoire puisque ces vases ne sont pas fouillés sur le terrain, mais en laboratoire par l'équipe de Richard Donat, qui est notre anthropologue attitré.
Qui est le propriétaire de ces tombes ? On peut penser que ce sont des groupements familiaux.
Alors pour les enclos, pour l'instant, c'est encore compliqué à dire parce qu'on a des enclos de toute taille, il y a des petits enclos qui font quelques mètres carrés et puis des enclos qui approchent la centaine de mètres carrés. Donc forcément, là, on se demande, on se dit que c'est pas tout à fait les mêmes catégories qui président à leur élection. Et donc, il y a peut-être des enclos familiaux, hein, on en est quasiment sûr. Et puis, pourquoi pas, après, des enclos plus grands qui pourraient appartenir à une corporation ou rassembler des personnes de familles différentes.
On a sur les inscriptions, on a des renseignements ?
Alors oui, là, les inscriptions sont très précieuses pour nous, puisque déjà, elles échappent au registre habituel des inscriptions qu'on a sur la ville de Narbonne. Et là, on a des plaques funéraires qui présentent la titulature du défunt et qui permettent de nous donner des détails très intéressants, avec notamment des plaques qui nous disent qu'on a affaire à des affranchis ou des esclaves qui ont des liens avec l'Italie et notamment Rome, et qui permettent aussi d'approcher la catégorie sociale avec des artisans ou des commerçants.
Des esclaves romains dans Narbonne, devenus affranchis, ça paraîtrait quand même assez curieux.
Non, pas du tout. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, et c'est difficile dans une société comme la nôtre, il faut imaginer que la société romaine est une société à la structuration très complexe. Et ce qui est difficile de comprendre pour nous, c'est qu'il peut y avoir des esclaves ou des affranchis qui mènent une vie presque autonome et qui peuvent avoir un niveau de richesse ou un niveau social plus important qu'un homme libre et qui, comme ça, peuvent vaquer à leurs propres occupations.
Parce qu'ils sont assez riches, là.
Alors, on est loin de l'élite, mais on est sur une catégorie sociale médiane avec des tombes qui nous montrent qu'on n'a quand même suffisamment de moyens pour se faire ériger des tombes assez monumentales parfois, avec des dépôts mobiliers qui peuvent être relativement riches, mais on est encore loin de l'élite et des grands mausolées ou des grandes tombes qui structurent l'entrée de certaines cités romaines.
La plèbe, en un mot, on va dire le middle class. Est-ce que, je sais que c'est très intéressant pour vous, vous auriez des traces de cheminement, c'est ça qui vous intéresse. Vous verriez un peu comment les rites se passent autour de ces tombes.
Exactement. Alors on a des cheminements pour deux choses. Déjà, la nécropole, le quartier funéraire en lui-même se structure d'une manière relativement complexe, au carrefour de deux voies majeures de Narbonne, puisqu'elles desservent les quartiers portuaires. Et on sait que la richesse de Narbonne repose essentiellement sur ce commerce maritime. Et de ces voies découlent des axes de cheminement à l'intérieur de l'ensemble funéraire contre lesquels vont venir se poser les tombes ou les enclos. Et ensuite, à l'intérieur des enclos, on a aussi des cheminements. Et effectivement, ce qui est particulièrement intéressant, puisque ça n'a jamais été observé dans un ensemble funéraire de cette époque en Gaule, c'est qu'on a les sols de circulation qui sont conservés. Et sur ces sols, on va retrouver tous les reliefs liés au culte des ancêtres, avec les restes de repas funéraires qui peuvent prendre des formes différentes, aussi bien des céramiques brisées avec des restes alimentaires à l'intérieur, des amas de coquillages, hein, on est au bord de la mer donc on mange beaucoup de coquillages, et puis on a aussi particulièrement émouvant et intéressant tous les reliefs liés à la libation, avec ces coupelles qui sont déposées au sommet du conduit à libation ou qui sont disposées à côté et parfois brisées, hein, de manière un peu symbolique sur le sol au contact de la tombe.
C'est-à-dire qu'on vient pique-niquer, on fait un repas d'huîtres, hein, et on honore par la même occasion les morts, probablement à certains jours.
C'est ça, il faut penser que la société romaine est une société ritualisée et que dans ces rites, le culte des ancêtres est fondamental et on vient régulièrement, voire très souvent, honorer la mémoire de la famille, des ancêtres, et on va effectivement procéder à des repas funéraires et on va partager le vin qui est un liant essentiel de la société romaine. On va partager ce vin avec le défunt et on va donc en verser par le conduit à libation. Il va traverser la tombe et se répandre dans le sous-sol pour les dieux souterrains.
Alors, dans les tombes, il y a bien sûr un très beau mobilier, généralement des petites bouteilles très jolies. Vous avez aussi de la verrerie, ce qu'on appelle du balsamère. De quoi s'agit-il ?
C'est ça. En fait, on a des petits flacons, beaucoup de mobilier en verre, des petites bouteilles, avec une typologie très variée. Hein. Ça peut aller effectivement du balsamère et de ces vases à parfum très classiques à des productions un peu plus rares. Et là, il faudra attendre le retour des spécialistes, mais avec des productions qui sont de très bonne facture et qui échappe au registre de ce qu'on trouve habituellement à Narbonne et dans les autres nécropoles de la même période sur l'arc méditerranéen tout du moins. Donc peut-être des importations et qui pourraient là aussi compléter le registre du mobilier qui arrive donc par ce commerce maritime intense et qui est très ouvert sur la Méditerranée et qui vient voilà comme ça s'en faire le témoin aux côtés des amphores notamment.
Alors ce qui est en marge aussi du registre habituel, c'est une sorte de tout petit phallus en or, très joli, absolument formidable, qui a été trouvé.
Oui, ça, les pendentifs phalliques comme ça sont partie prenante de la société romaine aussi. Celui-là sort de l'ordinaire, enfin pour nous, parce qu'il est dans une matière un peu plus riche. Et voilà, il était associé à une tombe d'enfant.
Alors, racontez-moi un peu le processus, parce que ça me paraît assez compliqué. Il y a toute une sorte de chaîne opératoire entre, je dirais, l'inhumation et avant l'inhumation. Il y a le bûcher, il y a toute une série de pratiques.
Oui, alors là aussi, les pratiques funéraires, hein, de ce point de vue, à l'époque romaine, sont très variées. Alors, pour l'arc méditerranéen, on a essentiellement de la crémation, hein, c'est 90-95% de crémation, avec une grande majorité de sépultures secondaires, c'est-à-dire que le corps est brûlé sur un bûcher qui peut être à l'extérieur de la nécropole ou dans certains endroits du quartier funéraire. Une fois la crémation achevée, on récupère une partie des ossements sur ce bûcher, il est mis dans un ossuaire, et c'est simplement cet ossuaire qui est déposé dans la tombe. C'est ce qu'on appelle voilà, un dépôt secondaire. Et puis après, on a quelques cas qui, là, sont en train de se généraliser. Plus on descend dans les strates, plus on va sur les périodes anciennes, plus ce type de tombe est en train de se généraliser, avec là ce qu'on appelle des dépôts primaires. On a le bûcher dans lequel ou sur lequel le corps est brûlé, et une fois la crémation terminée, on pratique un trou au centre du bûcher, on rassemble tous les restes osseux du défunt, ainsi que le mobilier qui a été brûlé. Et on va déposer là aussi des offrandes, des restes alimentaires, les reliefs du repas, etc. Et on ferme la tombe, mais cette dernière est dans le bûcher.
Alors je viens d'en voir des bûchers, il y en avait un qui était en cours de fouille là. Quelles informations tirez-vous de ces bûchers ?
Ah ben, sur les bûchers, on va s'appliquer à chercher tout un registre de choses. On va déjà regarder les essences les essences qui ont permis de procéder à la crémation, d'où vient le bois, quel type de bois, etc. pour s'apercevoir, comme probablement, hein, comme on l'a fait dans d'autres séries funéraires, hein, qu'il y a certains types d'essences qui sont privilégiées, l'olivier par exemple, etc. Donc on va déjà regarder ces aspects-là, et après on va regarder aussi si toutes les tombes sont gérées de la même manière, c'est-à-dire est-ce que quand on pratique une fosse de manière à enterrer le défunt au centre du bûcher, est-ce que toutes les tombes sont réalisées de la même manière? Est-ce qu'on prend soin de collecter la totalité des ossements ou pas? Est-ce que les dépôts sont les mêmes? Est-ce que les éléments de couverture sont les mêmes? Tout ça dans un but de rechercher les évolutions qui vont nous permettre comme ça peut-être de déceler des populations différentes ou des pratiques différentes, et bien évidemment de regarder, puisque le côté véritablement exceptionnel et extraordinaire de cette nécropole, c'est qu'elle est stratifiée, et que donc toutes les tombes ont une résonance stratigraphique par le biais de sol, de niveau de construction, de niveau de destruction entre elles, et en confrontant les pratiques, on pourra comme ça avoir une image, un instantané des pratiques funéraires à telle époque, et on pourra regarder leur évolution sur les 2 à 3 siècles que couvre l'utilisation de cet ensemble funéraire.
Vous trouvez un peu de mobilier aussi dans ces foyers, dans ces bûchers ?
Peu, pour l'instant. Il y a peu de mobilier qui semble être passé sur le bûcher. On a essentiellement des dépôts qui interviennent après, au moment de la mise en terre. Alors après, on a effectivement quelques éléments de coffrets, hein, qu'on retrouve au niveau des serrures, au niveau des attaches d'angles, etc. Du nécessaire à toilette, il y a quelques objets comme ça. Mais par rapport à d'autres séries qu'on avait fouillées, par exemple, dans le Gard, hein, dans la cité de Nîmes, pour l'instant, ça semble un peu inférieur à ce qu'on constate d'habitude.
Alors, dans la tombe, qui est faite de tuiles de toit, hein, 4 tuiles plus une autre par-dessus, en général, il y a énormément de mobilier. Et le mobilier est autour de l'individu, ou au moins ce qu'il en reste.
C'est exactement ça. On a vraiment une grande quantité de mobilier. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est assez systématisé. On a un vase ossuaire qui est là essentiellement en céramique, très peu de verre et quasiment pas de métal. Et autour de ce vase ossuaire, on va déposer 4 petites fioles ou 3 petites fioles qui sont toujours déposées de la même manière, toujours de manière symétrique au contact du vase. Et puis après, on peut avoir tout ce qu'on retrouve habituellement dans ces contextes-là, des lampes à huile, hein, qui ont aussi une forte symbolique dans les contextes funéraires, la lumière. Hein, et puis après, tout un lot de mobilier, des monnaies, comme on le disait, beaucoup de récipients en verre, et peut-être des résidus organiques, hein, qui montreront qu'il y a aussi des coffrets ou autres, parce qu'on a trouvé un certain lot d'éléments de tabletterie qui nous montrent que là aussi, il y avait peut-être, pourquoi pas, des brancards, des lits funéraires, des choses comme ça, ou simplement, des coffrets décorés, voire très richement ornés.
Les monnaies, c'est bien sûr pour passer le Styx, le fameux mythe de Caron.
Ah, ça rentre dans cette dynamique-là, oui. Sur la totalité des tombes qu'on a fouillées, il y en a relativement peu qui livrent des monnaies, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas déposées avec le défunt sur le bûcher. Et ce qu'on s'aperçoit déjà, d'après les premiers éléments issus de la fouille de ces vases ossuaires, c'est que le corps est loin d'être représenté dans sa totalité et qu'il y a donc une sélection après la crémation.
Et justement, on pourrait aller jusqu'où, puisque les os sont quand même carbonisés, on pourrait aller jusqu'où en anthropologie funéraire? Déterminer le sexe, déterminer l'âge par exemple?
Pour l'instant, ça risque d'être compromis parce qu'on a une crémation ou un niveau de crémation qui est quand même très poussé avec des os qui sont très fragmentés. Là encore, il faudra attendre quelques mois pour se faire une idée vraiment précise, mais à ce stade, les éléments vraiment très fragmentés laissent penser qu'il y aura peu d'informations au niveau du sexe biologique. C'est là où, après, vont rentrer aussi tout ce qui concerne le mobilier et essayer de déterminer s'il y a un mobilier genré et qui permettrait, pourquoi pas, d'essayer de trancher entre individus de sexe féminin ou masculin.
Est-ce que l'on voit une gestion dans la nécropole, une gestion des tombes? Est-ce que tout cela s'organise ou tout cela se recoupe? On ouvre une tombe, on la ferme, un individu est incinéré et on le réenterre à côté, on recoupe la tombe?
Non, là aussi, on est dans un ensemble funéraire extrêmement structuré. La structuration déjà générale, avec une organisation qui se calque, hein, sur celle de la ville, avec des orientations majeures autour desquelles vont venir se placer les enclos. Tout ça est très orthonormé. Et entre ces enclos, on a des cheminements. On voit très bien qu'il y a un grand respect d'une entité à une autre. Hein. Si les enclos peuvent s'appuyer sur le mur d'un enclos plus ancien, ils ne le détruisent surtout pas. Et ça va être pareil pour les tombes. Que ce soit dans les petits enclos ou dans les grands, on voit qu'il y a une gestion drastique de l'espace funéraire, c'est-à-dire qu'on cherche quand même à rentabiliser au maximum l'espace funéraire, puisqu'il y a des enclos qui ont une durée de vie très courte, mais il y en a une. Enfin, il y en a d'autres qui ont une durée de vie beaucoup plus longue. Et après, le fait que les tombes ne se percutent pas, ou en tout cas pas volontairement, montre qu'il y a là aussi, bah, évidemment, avec les conduits à libation, on sait très bien où sont positionnées les tombes, et on va essayer de faire attention et de ne pas trop perturber les tombes plus anciennes. On s'aperçoit aussi de cette structuration au travers des tombes qui sont monumentalisées, puisque si on va les chercher de manière à les rendre plus visibles, c'est qu'on sait où elles sont. Donc la mémoire procède aussi de l'organisation. Si on veut honorer la mémoire du défunt, il faut absolument savoir où se trouve ce dernier. Donc du coup, une organisation stricte.
Toujours est-il que cette nécropole tombe en oubli, tombe à l'abandon, arrive un moment.
Alors ça, c'est dû, et c'est vraiment très intéressant, parce que c'est dû à des événements climatiques. On a encore un petit peu du mal à comprendre. On a toute une équipe, là aussi, de géomorphologues, notamment, qui travaillent sur ces questions-là. L'ensemble funéraire, ce quartier funéraire, se situe juste à côté de la Robine, l'actuel canal de la Robine, qui correspond à un ancien bras de l'Aude. Et quelque part, vers le 1er siècle, eh bien, ce bras, ce cours d'eau, devient un peu plus capricieux et on voit les crues, les débordements se faire plus nombreux. Alors c'est des choses qu'on voit très bien hein, sur les sols, avec des phases comme ça de débordement, avec des limons qui sont déposés. Et on voit que ce sont des couches assez restreintes, avec des événements mineurs, donc quelques millimètres de sédiments qui sont déposés. Et on voit justement, dans certains cas, les personnes venir nettoyer, on vient entretenir, etc. Et puis, à partir du 1er siècle, ces débordements se font plus nombreux, plus importants. Et quelque part, à la fin du 2e ou du 3e siècle, début du 3e siècle, ces débordements sont trop importants et on décide d'abandonner ce secteur pour aller inhumer de plus loin et pourquoi pas de l'autre côté de la voie, dont on sait qu'elle est légèrement exhaussée par rapport à notre niveau, à nos niveaux d'inhumation, et donc qui pourrait servir quelque part de digue naturelle et donc protéger les morts.
La nécropole tombe dans l'oubli ?
Oui, elle tombe complètement dans l'oubli, puisque après le début du 3e siècle, rien ne montre qu'on revient honorer la mémoire des défunts ou continuer à procéder au culte. Et au contraire, on voit parallèlement à la voie que des établissements du 4e, 6e siècle s'installent sur les tombes et là les respectent assez peu. On va réutiliser les murs des enclos comme éléments de fondation ou on va intégrer ces murs dans les nouveaux bâtiments. Mais on sent que les morts n'ont plus d'importance et on est passé à autre chose.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Célia Dufour et avec bien sûr la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons Vix et les principautés celtiques.